Chapitre 28e. Je me rendis à l'adresse que m'avait donnée Roger. Je demandai Mademoiselle Perrotin à la concierge. Elle habitait au 5e étage. Je respirais. Maintenant, je ne pouvais manquer Roger, ou bien c'était déjà trop tard. Je montais, sonnais, il n'y avait personne. Je retournais chez la concierge, lui demandai si elle n'avait pas vu Roger ce matin. « Il vient de sortir, » me dit-elle. « Je suis étonné que vous ne l'ayez pas rencontré dans l'escalier. Il est allé au restaurant. » Je courus au restaurant. On ne l'avait pas vu. Quelqu'un me dit qu'il déjeunait également parfois à Rue Neuve. Je me rendis Rue Neuve. Il n'y était pas. Je pensais qu'il était peut-être remonté chez Mademoiselle Perrotin. J'interrogeai de nouveau la concierge. Elle me dit qu'elle n'avait vu personne depuis tout à l'heure. « Il est peut-être chez le coiffeur, » ajouta-t-elle. Elle m'expliqua où était ce coiffeur. « En tout cas, il revient toujours après le déjeuner. » J'allais chez le coiffeur. On ne l'avait pas vu. Je retournai au restaurant, en vain. Je me décidai à remonter chez Mademoiselle Perrotin sans rien demander à la concierge. La jeune femme était là. Elle avait bien entendu sonner tout à l'heure, mais elle n'avait pas ouvert parce qu'elle faisait sa toilette. Il y avait donc des gens qui ouvraient ou n'ouvraient pas pour une raison aussi simple. Je lui dis que je tenais absolument à voir Roger, que j'étais son ami, que je m'étais évadé avec lui, etc. Elle me pria de rester déjeuner. Je m'assis en attendant près de la fenêtre qui donnait sur les toits. Comme il était agréable de pouvoir se mettre à une fenêtre, sans voir des hommes passer dans la rue, sans se demander à chaque instant si quelqu'un n'allait pas s'arrêter, entrer, sans redouter ensuite d'entendre sonner. Mademoiselle Perrotin me souriait de temps en temps, comme une femme qui ignore tout de la situation grave de ses amis, pour qui une évasion est une aventure qui n'arrive qu'aux hommes. La tranquillité avec laquelle elle attendait le retour de Roger me rassurait. En regardant autour de moi, je constatais que Roger ne manquait pas de chance. Je comprenais maintenant pourquoi il avait tant tenu à passer par Bruxelles. Ce n'était pas pour rencontrer son oncle. Je trouvais seulement un peu égoïste de sa part de m'avoir fait faire un pareil détour pour me caser chez un parent chez lequel, lui, se gardait bien de mettre les pieds. La jeune femme était jolie. Le logement avait quelque chose de lointain, de protégé, qui me plaisait. J'étais accueilli en ami d'un homme aimé. Cela n'empêchait pas que le danger qui pesait sur Roger et sur moi demeurait présent à mon esprit. J'éprouvais ici, dans ce refuge, un malaise à la pensée que ma situation était beaucoup plus grave que celle de mon camarade, qui, lui, n'était qu'un évadé ordinaire. Il pouvait, évidemment, ne pas prendre les choses autant tragiques que moi. Comme il ne revenait toujours pas, je commençais à craindre que, n'ayant pas été prévenu, il n'eût été rendre visite à son oncle. Qu'on ne l'eût arrêté, qu'il n'eût été ensuite obligé de donner l'adresse de Mademoiselle Perrotin, que la police ne montât ici, et en me trouvant ne fit coup double. Cette façon de remonter de personnage en personnage jusqu'au coupable m'avait toujours paru une des méthodes les plus courantes employées par la police. Je voulus partir. Je me disais que j'étais bête de m'exposer pour un ami bien plus tranquille que moi et qui s'en tirerait toujours. Roger arriva enfin. Comme il ignorait que j'étais là, je l'entendis dire à travers la porte « C'est moi, ma chérie. » Je lui annonçai tout de suite ce qui s'était passé. Il ne parut pas le moins du monde inquiet. Comme mon émotion était visible, il me dit que j'étais un enfant, que tout cela était une histoire de son oncle, qu'il le connaissait, qu'il n'y avait pas un mot de vrai. Je lui dis que je n'avais pas rêvé, que j'avais vu les inspecteurs. Il se mit à rire. Il fit même cette remarque inattendue. Il faut bien qu'ils fassent leur travail. Je ne revenais pas. « Allons, » dit-il, « ne parlons plus de cela. » Je ne me remettais pas aussi facilement que l'eût désiré Roger. Tout à coup, je me sentis envahi par une sorte d'horreur pour cet oncle, pour tout ce qui le touchait, pour le quartier entier où il vivait. Je dis à Roger que j'étais de son avis, qu'il ne fallait pas se faire de soucis, mais que la première condition pour moi était de ne plus retourner chez M. Roger. J'avais assez de ce type-là. J'ajoutai en riant que puisque j'étais là, je ne m'en irais plus. « Ne trouvez-vous pas que j'ai raison ?» demandai-je à Mademoiselle Perrotin. Elle me répondit de façon charmante. Elle dit que c'était très facile, puisque j'étais l'ami de Roger, de nous arranger dans ce logement. On se serrerait. Elle me ferait un lit sur le divan. J'acceptai joyeusement, mais au fond de mon cœur, je me sentais lamentable. Je manquais de courage. Pourquoi ne rentrais-je pas à Paris, seul, au lieu de m'imposer? Je compris que si j'attendais Roger, ce n'était pas par amitié, mais à cause de l'appréhension du retour. Oui, j'étais lamentable. N'y a-t-il rien de plus indiscret que de forcer la main d'amoureux qui, par la nécessité où ils se trouvent de se donner mutuellement une belle idée d'eux-mêmes, ne peuvent rien vous refuser? Le soir, je m'installai sur le divan, mes pieds sur une chaise, car c'était un très petit divan. Je ne parvins pas à m'endormir. Je pensais à la chambre que j'avais quittée chez M. Roger, sans savoir alors que je n'y reviendrais pas. Je me rendais compte à présent que si j'avais su, je me fusse habillé autrement, j'eusse emporté mes objets de toilette, je n'eusse rien laissé qui me fût personnel. Un instant, je pensais que je devrais retourner, juste pour me mettre de l'ordre, puis il m'apparut que c'était bien inutile. Qu'est-ce que cela pouvait me faire que tout demeurât ainsi? Je ne parvenais toujours pas à m'endormir. Me doutant qu'on attendait que je dorme, je soupirais, je me retournais, pour qu'on sût que je ne dormais pas. Roger et son ami ne dormaient pas non plus. Je les entendais chuchoter de temps en temps. Et cet accord tacite qui faisait que nous ne nous parlions pas alors que nous savions que nous étions éveillés avait quelque chose de distant qui me causait un malaise. Je passai ainsi quelques jours chez Mademoiselle Perrotin. Si Roger était très heureux, je l'étais moins. Je songeais de plus en plus à me mettre en route. Je n'avais aucune raison de m'éterniser à Bruxelles. Mais chaque fois que j'en parlais à Roger, il me répondait que nous allions partir ensemble incessamment. Comme je ne parvenais pas à tirer de lui d'autres précisions, l'idée me vint de le quitter. À la réflexion, il m'apparut que mes raisons n'étaient pas sérieuses si j'avais véritablement de l'amitié pour Roger. J'avais beau me monter la tête, me persuader qu'il ne songeait qu'à lui, et que par conséquent je pouvais aussi songer à moi, je sentais qu'il me considérait comme un mauvais ami si je ne l'avais pas attendu. C'était bien surprenant, si on pensait à la différence de nos deux situations, mais c'était ainsi. Par ailleurs, j'étais devenu superstitieux. Il me semblait que si je ne savais pas me montrer plus indulgent pour Roger, si je ne savais pas comprendre les raisons qu'il avait de s'attarder, cela ne me porterait pas bonheur. Je ne pouvais tout de même pas le quitter à un moment où l'amour le rendait en quelque sorte moins apte à discerner les dangers que moi, qui justement était en possession de toute ma clairvoyance. Il fallait me dominer. On n'a aucun mérite à défendre un ami si cet ami nous écoute. Le sentiment que je portais à Roger était tel que c'était une joie pour moi de veiller sur lui. Au fond de son cœur, il se rendait bien compte de mon dévouement, et il m'était reconnaissant, même si je paraissais peser bien peu à côté de Mademoiselle Perrotin. Bientôt je m'aperçus d'un inconvénient qui finit par me donner de grandes inquiétudes. Dans mon zèle, je perdais un peu trop de vue ma propre sécurité. Il m'arrivait d'entreprendre pour Roger des démarches que je jugeais imprudentes pour lui, mais qu'il était encore plus pour moi. Il ne pouvait se résoudre à prendre des précautions. Il avait complètement oublié que des policiers s'étaient présentés chez son oncle pour le demander. Je trouvais admirable une telle insouciance. Je trouvais admirable également qu'il eût toujours l'air de se considérer comme le seul de nous deux qui fût sérieusement en danger. Il s'étonnait que je me fisse tant de soucis, alors qu'il ne s'en faisait aucun. Je finissais par me sentir tout petit à côté de lui, presque un innocent, bien que ce fût en réalité le contraire. Quand il sortait, il ne se donnait même pas la peine de regarder à gauche et à droite. J'aurais voulu lui rappeler quelle était notre situation exacte. Il ne fallait pas qu'il se crût en sécurité, car moi j'avais commis un acte très grave, et si on nous arrêtait, on ne s'amuserait pas à rechercher la part de responsabilité de chacun. En un mot, j'aurais voulu lui dire qu'il courait autant de risques que moi, mais je n'osais le faire. J'aurais eu l'air d'un de ces personnages douteux, qui cherchent à faire partager par d'autres la responsabilité des crimes qu'ils ont commis.